Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 19 septembre 2024. Voici le sommaire. La Cour pénale internationale va fermer son bureau en Côte d'Ivoire en 2025 tout en continuant d'enquêter sur les crimes commis pendant les crises des années 2000. Le fugitif le plus recherché de Guinée a été arrêté au Libéria. Il s'agit du colonel Claude Pivi, l'un des officiers les plus redoutés du pays.
Le colonel Claude Pivi est un militaire de renom qui a à son actif beaucoup de jeunes militaires formés. Au sein de l'armée guinéenne, c'est quelqu'un de très craint dans l'opinion publique aussi.
L'analyste politique Sekou Marega nous en dira plus dans la partie magazine. Une nouvelle vague d'explosion d'appareils de transmission du Hezbollah secoue le Liban, faisant une dizaine de morts et plus de 400 blessés. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nani Talani et les sports présentés par Yacouba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. La Cour pénale internationale va fermer son bureau en Côte d'Ivoire en 2025. Elle va néanmoins continuer d'enquêter sur les crimes commis pendant les crises des années 2000. Les précisions avec John Lyndon.
Une délégation de la CPI est à Abidjan jusqu'à ce jeudi pour formellement notifier à la Côte d'Ivoire la fermeture de ce bureau. Dans son projet de budget pour 2025, la Cour a indiqué qu'elle compte supprimer sa présence physique à Abidjan au milieu de l'année. La CPI enquête depuis 2011 sur des crimes commis pendant la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. La première phase de ces enquêtes avait conduit à l'émission de mandat d'arrêt contre l'ex-président Laurent Gbagbo et son ancien bras droit Charles Blé Goudé. Après plusieurs années de détention à la Haye, ils ont finalement été acquittés en 2019. Ils sont rentrés depuis en Côte d'Ivoire. La CPI continue d'enquêter sur un deuxième volet, ciblant cette fois des personnalités du camp de l'actuel président Alassane Ouattara. Elle devrait rendre ses conclusions l'année prochaine. Selon son projet de budget, la Cour achèvera également en 2025 son programme d'assistance aux victimes de ces crises, après avoir réparé le préjudice subi par quelques 8000 personnes.
Au Niger, au moins 12 militaires ont été tués et plus d'une trentaine blessés au cours de deux attaques séparées et dans l'explosion d'une mine artisanale entre dimanche et mardi, a déclaré l'armée hier à la télévision nationale. Dimanche, dans la région de Tillaberi, 5 soldats ont été tués et 25 autres blessés par, je cite, une horde de criminels venus par centaines, selon les mots de l'armée. Elle affirme avoir, en réponse, dépêché des renforts terrestres et aériens qui ont permis de tuer plus de 100 terroristes. Lundi, dans la région de Diffa, une patrouille a été victime d'un incident lié à un engin explosif improvisé qui a occasionné la mort de 5 soldats. Une frappe chirurgicale aérienne a, selon l'armée, permis de tuer plusieurs terroristes responsables de cet incident et de détruire les pirogues et du matériel. Mardi, enfin, dans la région d'Agadez, une autre attaque a visé un camp militaire et le poste de gendarmerie de Chirfa. Deux militaires sont morts et 6 autres blessés. Alors qu'il tentait de contrôler un véhicule des assaillants, a détaillé le bulletin des activités opérationnelles diffusé sur Télé Sahel. Une opération de poursuite a été immédiatement lancée pour traquer les assaillants en fuite et qui se dirigeaient vers la frontière libyenne. L'attaque a été revendiquée par un nouveau groupe armé, le Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice. Le représentant de l'ONU au Soudan du Sud a exprimé hier son regret et sa déception après l'annonce d'un nouveau report des premières élections de l'histoire du pays. Il a dénoncé la responsabilité du gouvernement dans la paralysie actuelle. Rosine Mounezero.
Le président sud-soudanais Salva Kiir a annoncé vendredi une extension de 2 ans de la période de transition censée s'achever en février 2025 après des élections en décembre. Il y a 2 ans, nous étions dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui et avions apporté notre soutien spécifiquement à la condition qu'il n'y ait plus de prolongation, a déclaré Nicolas Haysom dans un discours devant l'organe supervisant l'application de l'accord de paix. Le gouvernement de transition et la classe politique sud-soudanaise doivent assumer la responsabilité des échecs des 2 dernières années, a dit M. Haysom, appelant à des décisions cruciales et à un calendrier clair. Les ambassades de 8 pays occidentaux, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, ont également exprimé leur déception à l'annonce du nouveau report des élections avant d'appeler à un scrutin aussi vite que possible. L'accord de paix de 2018 a mis fin à 5 ans d'une guerre civile et a débouché sur la formation en 2020 d'un gouvernement d'union nationale. Depuis, le Soudan du Sud, le plus jeune État du monde, est englué dans des querelles entre Salva Kiir et Riek Machar, la corruption et des conflits ethniques meurtriers.
En Tunisie, l'un des trois candidats à la présidentielle du 6 octobre, Ayachi Zamel, a été condamné mercredi à 1 an et 8 mois de prison pour des accusations liées à des falsifications de parrainage, mais il reste en lice pour les élections selon l'un de ses avocats. Monsieur Zamel, un ancien député et dirigeant d'un petit parti libéral, s'est vu infliger cette peine par le tribunal de première instance de Gendouba, au nord-ouest de Tunis, et son équipe d'avocats va faire appel à préciser Abdel Sattar Messaoui, président de son comité de défense. La condamnation a été prononcée en l'absence de l'accusé, selon l'avocat. Selon Maître Messaoudi, cette condamnation n'empêche pas M. Zamel d'être candidat au scrutin présidentiel. Il reste candidat à la présidentielle et son équipe va continuer sa campagne électorale, a indiqué l'avocat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Liban, une nouvelle vague d'explosions d'appareils de transmission du Hezbollah a fait hier au moins 14 morts et 450 blessés, d'après le ministère libanais de la Santé. Ces dernières attaques exacerbent les craintes d'une guerre totale dans la région. Eddie Sango.
Hier à Beyrouth, ce sont des talkies walkies qui ont explosé simultanément dans la banlieue sud au moment où s'est déroulé les obsèques des 4 membres du Hezbollah tués la veille dans l'explosion des beepers. Mardi, des beepers, un système de radiomessagerie utilisé par les mouvements islamistes pro-iraniens, ont explosé simultanément et ont fait 12 morts et près de 2800 blessés selon le ministère libanais de la Santé. Le Hezbollah a accusé Israël d'être entièrement responsable de ces explosions, promettant de punir Israël pour ses actes. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit d'ailleurs s'exprimer aujourd'hui. Israël n'a fait aucun commentaire sur ces explosions dans plusieurs places fortes du Hezbollah. Le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bouhabid, a estimé de son côté que l'attaque de mardi pourrait être les présages d'une guerre plus large au Moyen-Orient.
Ici aux États-Unis, l'International Brotherhood of Teamsters, le puissant syndicat des chauffeurs routiers, a annoncé mercredi renoncer à apporter son soutien officiel à l'un des candidats à la Maison-Blanche, rompant avec un quart de siècle d'appui aux démocrates. En effet, le Parti démocrate a pu compter sur un fidèle soutien des Teamsters depuis l'an 2000 et c'est la première fois depuis 1996 que le syndicat choisit de ne soutenir aucun candidat. Des représentants de l'organisation syndicale fédérant 1,3 million de membres avaient pourtant rencontré lundi Kamala Harris, mais deux sondages rendus publics mercredi par le syndicat montrent que sa base est plutôt favorable à un soutien à Donald Trump. Le constructeur aéronautique Boeing va procéder dans les prochains jours à des mises en chômage techniques partielles, a annoncé hier le patron du groupe Kelly Ortberg. Cette annonce survient alors que quelques 33 000 employés de l'avionneur sont en grève depuis le 13 septembre. Nani Talani.
Dans un message aux employés, Kelly Ortberg précise que pour limiter l'impact de cette décision, les employés concernés auront par roulement une semaine de chômage technique toutes les 4 semaines. Selon Boeing, cette mesure de chômage technique partiel va affecter plusieurs dizaines de milliers d'employés. Elle va toucher un grand nombre de dirigeants, de responsables et d'employés basés aux États-Unis, selon M. Ortberg. Il a ajouté que, pendant toute la durée de la grève, l'équipe de direction et lui-même vont renoncer à une part de leur rémunération équivalente à celle perdue par les effectifs placés en chômage technique. Boeing reste déterminé à réinitialiser sa relation avec le personnel gréviste et à poursuivre les négociations pour parvenir à une convention collective aussi vite que possible. Les négociations ont repris mardi à Seattle sous l'égide d'une médiation fédérale pour tenter d'élaborer une nouvelle convention sur l'ampleur de la hausse salariale et les retraites.
Le président palestinien Mahmoud Abbas doit rencontrer ce jeudi le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Selon une source à la présidence palestinienne, Mahmoud Abbas devrait également être reçu par le roi Felipe VI d'Espagne, mais la maison royale n'a pas encore confirmé cet entretien. Cette visite fait suite à la reconnaissance le 28 mai par l'Espagne, de concert avec l'Irlande et la Norvège, de l'État de Palestine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minuteco, c'est avec Nani Talani.
Le Congo-Brazzaville va lancer à partir de janvier 2025 les travaux de construction de son plus grand barrage hydroélectrique à Sunda, dans le sud, d'une capacité de 600 à 800 MW, a annoncé le gouvernement. Les travaux vont s'achever en juin 2030 pour un coût global de 1 300 milliards de francs CFA préfinancés par la Chine. En 2011, Pékin a préfinancé la construction du barrage hydroélectrique d'Imbulu de 120 MW à 160 km au nord de Brazzaville. L'autorité de l'éducation et de la recherche estime que le développement des compétences est essentiel pour la croissance du secteur privé au Rwanda, où une main-d'œuvre mal éduquée freine les entreprises. Son rapport, publié par la Banque mondiale, appelle à renforcer l'adéquation entre les emplois, à augmenter les investissements publics dans l'éducation et à mieux l'aligner sur le marché du travail dans des secteurs clés comme l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Pour terminer, le FMI estime que l'économie du Lesotho souffre d'une croissance faible, d'un chômage élevé et d'une pauvreté répandue. Le modèle de croissance dirigé par le gouvernement a conduit à une forte dépendance des dépenses publiques et à un secteur privé peu diversifié, entraînant un faible investissement, une compétitivité en déclin et une forte informalité.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
Nous parlons de boxe ce matin. Christian Billy veut affronter Canelo.
Oui, classé parmi les meilleurs super moyens, Christian Billy espère défier prochainement le roi de sa catégorie, le Mexicain Canelo Alvarez, triple détenteur des ceintures WBA, WBO et WBC. À la faveur de ses 28 victoires en autant de combats, dont 23 avant la limite, le Français fait figure de challenger numéro 1 d'Alvarez.
On va pas se mentir, Canelo, c'est un peu, on dirait, c'est un peu la légende de notre époque. Battre un Canelo, ça serait un peu entrer dans l'histoire. Et en même temps, on va pas se mentir, financièrement parlant, ça serait un combat très payant. Et en même temps, battre un Canelo, tu entres dans l'histoire financièrement, tout est bénéfique. Et en même temps, tu récupères les 3 ceintures sur 4. Je pense que actuellement, c'est un peu l'homme à battre de la catégorie.
À 29 ans, il concentre désormais tous ses efforts pour se voir offrir l'opportunité de défier le Mexicain, l'une des plus grandes stars et des principales attractions de la boxe mondiale. Depuis son passage chez les professionnels en 2017, Christian Billy enchaîne les succès probants. Le dernier en date en août contre l'Ukrainien Sergei Derevyanchenko, l'adversaire le plus expérimenté qu'il ait affronté jusqu'à présent. Au classement des différentes fédérations, Christian Billy apparaît désormais comme l'aspirant le plus légitime à une chance mondiale. La cap désormais sur Canelo.
Ma catégorie actuellement est assez spéciale. On a un champion du monde, je dirais, qui fait un peu rouler la boxe. C'est un peu la tête, le visage de la boxe actuellement, qui fait un peu ce qu'il veut. Donc ça fait en sorte que lui, il choisit un peu ses adversaires en fonction de ses envies et de ses désirs et de ce qu'il pense qu'il apporte le plus d'argent, le plus de revenus.
Superstar de la boxe, Canelo ne combat plus que 2 fois dans l'année, en mai et en septembre, à l'occasion des 2 principales fêtes mexicaines. Il a d'ailleurs conservé samedi dernier à Las Vegas ses ceintures mondiales après sa victoire par décision unanime contre le jeune loup portoricain Edgar Berlanga, un succès qui porte son bilan à 62 victoires dont 39 KO pour 2 défaites et 2 nuls. Interrogé dès la fin de son combat pour connaître l'identité de son prochain adversaire, Canelo n'a rien dévoilé et a même feint de ne pas connaître Mbili.
Je ne sais pas si c'est de la provocation ou pas, mais c'est sûr que je le comprends tout à fait. Et c'est pas arrivé à ce niveau-là, vous ne voulez pas faire de la pub gratuite à quelqu'un. Donc, s'il ne me connaît pas, tant mieux. Sinon, on fera présentation sur le ring.
Une présentation ou une explication sur le ring que Christian Mbili dit attendre impatiemment.
Merci, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumpa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Le colonel guinéen Claude Pivi, surnommé Coplan ou K.O., en cavale depuis le 4 novembre dernier, a été capturé dans un village à la frontière entre le Libéria et la Guinée. En juillet, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans pour son implication dans le massacre du 28 septembre 2009. Pour mieux cerner ce personnage redouté, Eric Manirakiza a joint à Conakry l'analyste politique Sékou Bamara.
Comme vous le savez, Monsieur Claude, on va dire colonel Claude Pivi, est un militaire de renom, n'est-ce pas, dans l'armée guinéenne, qui a fait des preuves plus de 30 ans de service militaire, donc qui a à son actif beaucoup plus de jeunes militaires formés. Donc, c'est au sein de l'armée guinéenne, c'est quelqu'un de très craint dans l'opinion publique aussi.
Et son arrestation a provoqué quelle réaction?
Je pense que son arrestation a provoqué deux types de réactions. Un mouvement de soulagement pour ceux qui sont avec le régime en place, parce qu'on savait que tous que Claude Pivi en liberté, c'est une menace pour la transition et les autorités de la transition. Quand on sait, n'est-ce pas, le background, n'est-ce pas, de sa formation militaire, mais aussi de son réseau, n'est-ce pas, militaire, parce qu'il avait une société de sécurité. Donc, c'est un look de soulagement pour les autorités de la transition et leur soutien. Maintenant, c'est une angoisse, on va dire. C'est une angoisse pour ses parents, pour ses soutiens, parce que nous savons tous que la manière dont il est parti, et après le mandat d'arrêt international contre lui, nous savons que son avenir semble être scellé, surtout dans les mains d'un régime qui n'est pas aujourd'hui favorable, parce que le président de la transition avait pris sa fuite comme un défi personnel. Donc nous pensons que ça va être une désolation pour ses proches.
Sa tête avait été mise à prix à 50 000 $.
Oui, exactement. Sa tête a été mise à 50 000 $. Mais nous savons tous que Coplan, comme je vous le disais en l'entendre, Coplan c'est quelqu'un de très mystérieux. Donc, qui a dans l'opinion publique beaucoup, qui envoie, on va dire, beaucoup de peur dans l'opinion publique, que personne ne peut, n'est-ce pas, se lancer dans une quête, n'est-ce pas, de recherche de Coplan Pivi, en tout cas en Guinée.
Alors, le colonel Pivi a été condamné par contumace pour le massacre du 28 septembre. Qu'est-ce que son arrestation signifie pour les familles des victimes?
Bon, je pense que d'un point de vue juridique, je pense que c'est un succès, on va dire, pour la justice guinéenne qui avait déjà délivré un mandat international et qui, au regard des victimes du massacre du 28 septembre 2009, vont se sentir un tout petit peu soulagés parce qu'il a été condamné à réclusion criminelle par le tribunal ad hoc, n'est-ce pas, créé pour les événements du 28 septembre. Donc, il était tout à fait normal, nécessaire qu'il soit retrouvé et encore incarcéré derrière les barreaux.
C'était Sékouba Marega, analyste politique. Au Mali, le projet Albarka, financé par l'USAID, a installé des points d'eau dans 3 villages du cercle de Koro, dans la région de Badiangara, soulageant les femmes, autrefois contraintes de parcourir de longues distances pour trouver de l'eau potable. Les autorités saluent cette aide vitale de Koro dans le centre du Mali, la correspondance de Tidiani Ouedraogo.
Plusieurs villages du secte de Koro souffrent du manque d'eau potable. Dans le village de Somaloboro, dans la commune de Baratereli, les femmes sont les plus affectées par cette situation. Elles parcourent des kilomètres à la recherche de l'eau.
Les femmes souffrent de cette pénurie d'eau. Il faut des solutions. Nous utilisons l'eau des mares pendant l'hivernage avec le risque de maladie.
Somaloboro n'est pas unique. Dans ces localités, l'accès difficile à l'eau fragilise la résilience des populations déjà affectées par l'insécurité. L'ISAID, à travers le projet Albarka, a financé des points d'eau dans 3 villages afin d'amoindrir la souffrance des femmes.
Et ce que je dis sera fait d'abord aux maires qui, à son tour, va remettre les ouvrages officiellement aux communautés. C'est le lieu aussi pour moi de remercier le projet Albarka, qui est un financement du gouvernement américain à travers l'ISAID, qui vise principalement à l'amélioration des conditions de vie des communautés dans les zones touchées par les conflits.
Un coût de déplacement pour les femmes de ces localités qui n'auront plus besoin à parcourir des kilomètres pour se procurer de l'eau.
Maintenant, nous avons l'eau. Il est facile pour nous de faire la lessive, de préparer. Avant, on se levait la nuit pour chercher de l'eau.
Les autorités de Koro, tout en exprimant leur joie, attirent l'attention des partenaires sur le problème de l'eau dans plusieurs villages du cercle.
Je suis très 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 content de ces différentes addictions d'eau dans ces 3 villages. Vu les nécessités qui se posaient dans ces localités. Par d'eau, pas de santé. Sans d'eau, il n'y a pas de santé.
Le projet Albarka est un financement du gouvernement américain qui vise principalement l'amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des communautés dans les zones affectées par les conflits. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, l'État a repris fin août 2024 le contrôle des mines de Boungou et Wagnon, autrefois exploitées par les sociétés Endeavour et Lilium. Ces deux mines, qui renferment encore plus de 40 tonnes d'or, sont essentielles pour l'économie du pays, bien que la production aurifère du Burkina soit en baisse depuis 2022. Cependant, la récente hausse des prix de l'or sur le marché offre un espoir de redressement pour le secteur. Plus de détails dans ce reportage de Gilles Dasda, l'un de nos correspondants au Burkina Faso.
Depuis le 26 août dernier, l'État burkinabé a repris possession des mines de Boungou et Wagnon. La procédure intervient suite à un différend qui opposait deux sociétés minières, Endeavour et Lilium. Une situation que nous explique Sandrine Sawadogo, journaliste et directrice de publication de l'Économiste du Faso.
En 2023, la société Endeavour Mining avait décidé de vendre ces deux mines, hein, Boungou et Wagnon, à la société burkinabé Lilium, Lilium Mining. Et le processus de vente a créé des divisions au niveau des deux sociétés-là. Elles ne s'entendaient pas et elles envisageaient de rester en justice, justement pour que la justice tranche sur la cession de ces deux mines.
Endeavour va donc engager les procédures judiciaires contre Lilium à Paris et Londres pour rentrer dans ses fonds. L'intervention de l'État met un terme à cette crise, mais la reprise en main des deux mines a un coût évoqué lors de la signature de la convention par Aboubakar Nakanabo, ministre des Finances du Burkina.
L'État doit payer 60 millions de dollars et plus des redevances qui vont être payées sur une production de 400 000 onces, ce qui, si on s'en tient au cours actuel de l'or, va tourner autour de 30 millions, donc en tout 90 millions de dollars que l'État doit payer pour acquérir ces deux mines. Et ce n'est qu'un début parce que l'État va encore travailler à exploiter d'autres mines.
Les mines de Wagnon et Boungou ont encore un potentiel de plus de 40 tonnes d'or à exploiter. Selon des experts que nous avons joints, la mine de Boungou située dans l'est du pays, une zone à fort défi sécuritaire, pourrait reprendre ses activités arrêtées depuis plusieurs mois. Depuis 2022, la production d'or au Burkina est en recul, passant de plus de 67 tonnes en 2021 à 56,8 tonnes en 2023. Et 2024 semble suivre la même tendance selon les statistiques officielles. Entre janvier et juillet de cette année, la production est d'un peu plus de 31 tonnes d'or, soit une baisse de 3,5% par rapport à la même période en 2023. Mais le plus important reste le prix sur le marché, selon la journaliste Sandrine Sawadogo, spécialiste de l'information économique.
Ce qui est relativement important quand on sait que l'or est le premier produit exportateur, le premier produit que le Burkina vend sur le marché international. Donc une baisse de cette production-là peut engendrer une baisse des ressources que l'État peut acquérir quant à la vente de cet or. Maintenant, comme il s'agit d'un métal qui est assez précieux, qui est coté, la valeur de l'or, même souvent quand on remarque si la production dans un pays est en baisse, il y a des moments où la valeur de l'or augmente. Donc il faudrait pouvoir comparer la baisse de la production au premier trimestre 2024 par rapport à la vente au prix réel de l'once sur le marché. Donc peut-être que la production a baissé, mais l'or a pris de la valeur, donc c'était un peu plus rentable.
Depuis janvier 2024, le coût de l'once est effectivement en hausse. Une bouffée d'oxygène pour le secteur minier burkinabé, touché par la crise sécuritaire qui a provoqué la fermeture de certaines grandes mines dans des zones difficiles d'accès. Gilles Dasda, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Ici aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump accusent la Chine de pratiques commerciales déloyales et d'inonder les marchés internationaux de produits artificiellement bon marché. Les analystes affirment que les deux candidats à la présidence pourraient utiliser les droits de douane pour contrer la Chine et encourager les emplois dans l'industrie manufacturière américaine. Elisabeth Lee de la VOA explique comment cette guerre commerciale pourrait avoir un impact sur les consommateurs. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Cette sonnette de vélo à 6 dollars fabriquée en Chine pourrait coûter 9,60 dollars si les droits de douane supplémentaires proposés par le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, se concrétisent.
Nous imposons des droits de douane à d'autres pays. D'autres pays vont enfin, après 75 ans, nous rembourser pour tout ce que nous avons fait pour le monde. Et les droits de douane seront substantiels dans certains cas.
Cela signifie que les produits fabriqués en Chine seront frappés par les droits de douane allant jusqu'à 60% dans le cadre du plan de Trump. Il ajoute qu'il va appliquer des droits de douane globaux allant jusqu'à 20% à tous les autres pays. Le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, et la candidate démocrate, Kamala Harris, affirment vouloir ramener les emplois aux États-Unis.
Une politique à l'égard de la Chine devrait viser à garantir que les États-Unis d'Amérique remportent la compétition pour le 21e siècle.
L'administration Biden a maintenu la plupart des taxes à l'importation mises en place sous la présidence de Trump. En mai, elle a annoncé de nouvelles augmentations des droits de douane sur 18 milliards de dollars d'importations chinoises, y compris une taxe de 100% sur les véhicules électriques chinois. L'administration Biden affirme que ces droits de douane sont stratégiques et visent des industries spécifiques, tandis que la taxe à l'importation de Trump adopte une approche plus large qui coûtera 4 000 dollars de plus par an à un ménage américain de la classe moyenne. D'autres estimations se situent autour de 2 000 dollars. Trump affirme que les consommateurs ne seront pas touchés.
Ce sont la Chine et tous les pays qui nous escroquent depuis des années qui verront leurs prix augmenter.
Mais ce ne sont pas les entreprises chinoises qui paient les taxes à l'importation, explique Christopher Tang, expert en chaîne d'approvisionnement.
Pendant les années électorales, tout le monde promet la lune. Mais la vérité, c'est que les droits d'importation sont payés par les entreprises américaines.
Ainsi, pour une télévision fabriquée en Chine et vendue par Costco aux États-Unis, c'est Costco qui paye la taxe à l'importation.
Lorsque les entreprises sont confrontées à des droits de douane élevés, il y a deux possibilités. L'une consiste à répercuter le coût élevé des importations sur les consommateurs. L'autre a fait pression sur les usines chinoises pour qu'elles baissent leurs prix.
Selon lui, le risque de pousser les entreprises chinoises à baisser les prix est la mauvaise qualité des produits. L'Organisation mondiale du commerce estime que les droits de douane affectent de manière disproportionnée les ménages à faible revenu. Cela signifie qu'une sonnette de vélo à 9,60 dollars et d'autres produits de tous les jours pourraient être hors de portée de certains consommateurs si une taxe à l'importation de 60% est imposé sur les produits fabriqués en Chine.
Salut les
les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Koumfa. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.